Trip Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Strip Sismique, l'émission dédiée à la bande dessinée et aux fanzines, une fois par mois le dimanche sur Radio Campus Paris. Comme nous l'avions annoncé lors de notre dernière émission, nous sommes allés au festival de la bande dessinée d'Angoulême qui s'est déroulé du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février, il y a donc bientôt 3 semaines. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, voilà comment les choses se passent. La ville d'Angoulême, c'est 40 000 habitants d'habitude et ça bourgeonne au moment du festival puisque 200 000 visiteurs viennent sur les sites qui sont dédiés à la BD. Il y en a plusieurs, de différents types. Vous avez des espaces pour les maisons d'édition, des stands pour les collectionneurs, des rencontres, des spectacles, des expos. Dans ce festival, on distingue traditionnellement la partie officielle de ce qu'on appelle le off. Disons que la partie officielle est effectivement plus liée à la partie pro qui déconne pas tant que ça, même si elle laisse de l'espace à des auteurs, à des maisons d'édition qui ne se privent pas d'être hors sol. Mais vous avez aussi, évidemment, cet aspect de la distribution de prix dont nous ne parlerons pas parce que ça ne nous intéresse pas tant que ça. Mais pour le visiteur, cette distinction entre festival in et festival off s'estompe. On a un plan avec tous les sites répertoriés, qu'ils soient off ou in, et on se balade dans la ville.
Bref.
J'étais avec Camille.
Tout à fait. Muni de ses plans et d'un micro, on a parcouru la ville et nous avons vu pas mal de choses. Des expos, Nicole Clavelou, quand Okapi rencontre un métal hurlant, la bande d'Antoine Marchelot, dessinée, l'espace officiel de la BD alternative et l'espace Nouveau Monde, les spin-offs, les off-off-off, et un autre rigolo dont on vous parlera à la fin de l'émission.
Alors voilà un aperçu de l'ambiance. On commence notre petit tour au stand des éditions Biscotto avec Le Petit Poussé et l'usine à saucisses de Benoît Pretseil, Sophie Azambre-Leroy et Karl Rosens aux éditions Biscotto. Donc.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Oui, donc vous présentez ici aux éditions Biscotto Les Petits Poussés à l'usine à saucisses. Est-ce que vous pourrez nous parler un peu de cette œuvre, s'il vous plaît?
C'est un livre-disque qu'on a créé à trois personnes. Donc, on a, avec Sophie Azambre-Leroy et avec Karl Roussens, on a écrit tous les trois une histoire, une nouvelle version du Petit Poussé. Et on a écrit des chansons et on a du coup enregistré toute l'histoire racontée et les chansons qui sont dans un CD à la fin, du livre. Et c'est une nouvelle version du Petit Poussé où en fait l'ogre est devenu le patron d'une grande usine de saucisses. Et dans lequel, en fait, au lieu de se perdre dans la forêt, Poussé et ses frères se perdent dans une zone commerciale la nuit. Parce qu'on trouvait que c'était beaucoup plus effrayant qu'une forêt.
Oui, et pourquoi partir de l'histoire du Petit Poussé ?
Quand on a commencé à écrire tous les trois et à réfléchir là-dessus, on s'est dit que ce serait plus simple de partir d'une base commune. Et donc, Le Petit Poussé, ça nous paraissait être un conte intéressant, parce qu'il y a quand même un rapport à la viande, à la nourriture, et qui nous paraissait intéressant à creuser. Et on a eu cette idée d'usine à saucisses, et en fait, c'est aussi le prétexte pour pouvoir parler de l'industrialisation, de pourquoi est-ce que éventuellement ça peut être bien de manger des légumes plutôt que de la viande. Enfin, il y a ce genre de petit sous-texte qu'on a introduit dans le conte de Charles Perrault. Quoi. Voilà.
Et pourquoi, donc, vous avez publié plein d'autres livres, pourquoi faire un livre pour la jeunesse? Pourquoi vous avez eu cette envie?
Alors, je suis auteur, éditeur, mais je suis aussi musicien. Et en fait, avec Sophie Azambre-Leroy, on a eu un groupe qui s'appelait Savon Tranchant pendant des années. Et en fait, les gens qui ont le plus apprécié en général notre musique, alors qu'on essayait de faire du punk extrêmement, extrêmement bizarre et tout ça, et en fait, c'était souvent les enfants qui étaient les meilleurs clients pour ce qu'on faisait. Et on était très surpris et en fait il y a un moment où on s'est dit tiens bah, pourquoi pas essayer nous-mêmes d'aller vers eux et de leur faire quelque chose avec un contenu qui pourrait leur parler sans doute plus que les textes qu'on avait composés dans notre duo.
Et par rapport à la musique, donc vous avez eu ces groupes de punk, et comment votre pratique de musicien rentrait dans votre dessin?
C'est des choses un peu parallèles en fait. C'est deux énergies très différentes. Quand on dessine, en fait, on passe beaucoup de temps seul, à préparer des choses pendant des mois. Et en fait, quand le livre sort, c'est pareil, ça prend du temps avant que les gens se rendent compte qu'il est sorti, qu'ils le lisent. Donc pour avoir des retours, c'est assez. Il faut être patient, quoi. Alors qu'en tant que musicien, là, c'est une autre énergie où on peut composer beaucoup plus vite, on peut aussi avoir des retours beaucoup plus rapidement parce que quand on est face à des gens en concert, on sait assez immédiatement si ça leur parle ou pas. Et les deux, en fait, pour ma santé mentale personnelle, sont assez indispensables.
Moi, je voudrais revenir sur l'autre activité là, d'éditeur, dessinateur que vous avez pour la maison d'édition Yon. On voit ici hein, sur la table, il y a différents albums de vous-même. Donc, par exemple, Maudit Victor, L'Art et le Sang, Duchamp, Marcel, Quincaillerie, Mardi Gras, etc. Et puis, il y a d'autres auteurs. Est-ce que vous pouvez un peu présenter l'idée qui a. Comment est née déjà cette maison d'édition ? Est-ce qu'elle a des objectifs, des choses qui l'intéressent particulièrement, ou est-ce que c'est simplement des coups de cœur que vous publiez, ou c'est aussi lié à un réseau d'amis voilà.
Alors les livres que vous avez cités, dont je suis l'auteur, en fait, ont été publiés dans d'autres maisons d'édition.
Cornelius.
C'est sorti chez Cornelius et Atrabile, etc. Donc ça, c'est vraiment mon travail d'auteur de bande dessinée. Ouais. Mais en tant qu'éditeur, en fait, j'ai créé Yon parce que je voulais montrer une pratique du dessin qui était un peu particulière. C'est vraiment des livres autour du dessin, c'est pas de la bande dessinée. Et c'est le travail un peu secret de gens qui font des choses que je trouve magnifiques, en fait, et qui m'aident aussi à ne pas devenir complètement neurasthénique quand je travaille sur des livres. C'est toujours assez précieux pour moi d'être en rapport avec des artistes que j'admire. Et donc, par exemple, il y a un des premiers livres que j'ai sorti, c'est le livre d'Aurélien Valade, qui en fait est tatoueur à Angoulême et qui fait des dessins absolument magnifiques. Mais avant que je sorte des livres, pour le voir, il fallait se rendre dans son shop et aller fouiller dans ses carnets de croquis. Et ça me paraissait dommage que ça puisse pas être vu plus largement, même par des gens qui n'auraient pas forcément envie de se faire tatouer, en fait, juste des amateurs de dessin, etc.
Et donc là, je pense que vous parlez de précis dermo-pictural illustré, c'est ça ?
Tout à fait, ça c'est le dernier qu'on a fait ensemble, on en a fait plusieurs. Et d'autre part, il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille qui sont des auteurs ou des autrices de bande dessinée, mais qui ont une pratique du dessin personnelle et donc qui font des choses en pensant pas forcément à un but précis.
C'est pas forcément narratif.
C'est pas forcément narratif. Et par exemple, là, le dernier livre en date, c'est Message de service de Gilles Rochier. Donc Gilles Rochier, qui est auteur de bande dessinée, qui a sorti des très beaux livres chez Six Pieds Sous Terre, par exemple. Et là, Message de service, c'est une série qu'il a fait autour du graffiti et des dessins. Il a commencé à en faire un, puis deux, puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il en avait 40. Et donc, on a fait un livre avec ça. Et donc, c'est ce genre de création personnelle et un peu inclassable que j'ai envie de montrer dans ma maison d'édition.
Et puis ensuite, donc, Camilla, j'y suis allé tout seul. Tu étais parti ailleurs, hein, d'autres interviews qu'on verra ensuite. Et alors, on a entendu, là, il y avait cette idée d'album sonorisé. Et on l'a retrouvé aussi avec une toute petite maison d'édition qui était pourtant dans cette partie du festival qui est quand même coûteuse pour les exposants et qui s'appelle les éditions du Petit Saturnin. Alors, si j'interprète bien c'est leur présence au salon, c'est vraiment une tentative de visibilité. Mais vous allez voir, c'est intéressant d'entendre ce genre d'aventure. Bonjour, donc là je suis au stand édition du Petit Saturnin qui est donc, si j'ai bien compris, parce qu'on a un peu discuté avant, une maison d'édition qui a 3 ans en gros. Et donc, qui s'est un peu spécialisé, qui a une ligne éditoriale très claire, parce qu'on a vu plein d'autres trucs où, justement, l'idée, si on publie ce qu'on aime bien, etc. Et là, qui est l'idée d'avoir des bandes dessinées sonorisées. Et là, on a, disons, pour l'instant, 3 publications qui sont vraiment à direction des enfants. Alors, donc je suis avec, si j'ai bien compris, Johan Pelser, et qui peut-être peut nous en dire un peu plus sur le début de cette aventure-là.
Donc l'idée, c'était effectivement, c'est venu, déjà on est parents de jeunes enfants, donc on avait envie de proposer autre chose et de proposer une autre approche. Et on s'est dit qu'effectivement, d'apporter ce support audio, c'était une manière d'autonomiser l'enfant, puisque notre toute première publication, c'était vraiment pour le tout jeune public, donc des enfants qui sont non lecteurs, donc qui ne vont pas pouvoir directement découvrir la BD et la lire par eux-mêmes. Et donc,
Est-ce que c'est pour libérer les parents ?
On pourrait le dire comme ça. En tous les cas, à la maison, d'accord. Ça marche bien comme ça.
Ouais, d'accord.
Ça permet d'avoir une ambiance, donc comme sont deux petits singes, enfin notre première série pour les tout petits, c'est sont deux petits singes dans l'ambiance de la jungle. Le fait de rajouter justement l'ambiance de la jungle, c'est quelque chose d'assez apaisant. Il y a des bruits des animaux, c'est toujours distrayant. Et puis des histoires courtes qui sont facilement compréhensibles par les enfants. Donc a priori ça marche bien.
D'accord. Et puis là vous avez, donc alors ça c'est les deux petits singes, hein, donc ils sont à la découverte de la musique dans un premier album qui s'appelle « À la découverte de la musique » tout simplement. Voilà. Et Louis et Titi, toujours les deux petits singes, à la découverte de l'art. Et puis là, on en a un troisième qui va initier, si j'ai bien compris, une nouvelle série aussi.
Oui.
Mais j'ai du mal à résumer, il s'appelle Saint-Sat, un passivélin petit canard qui lui va à l'aventure, j'ai bien compris, de l'histoire un peu et des métiers.
Oui, enfin, en fait, c'est toujours la même manière. On aime bien quand même le côté un peu pédagogique, éducatif. Donc, on essaye de mettre pas mal de matière pour pouvoir après creuser, si on veut, l'histoire. Et donc là, notre petit canard, il va débarquer dans un village français avec une ambiance un peu médiévale, une architecture romane. Et donc, effectivement, ça permet de parler, si on a envie, un petit peu d'architecture, un petit peu des métiers, parce que voilà, il y a des viticulteurs, il y a des fabricants de tuiles. On a pas mal de choses en fait, de noisettes. Ça permet effectivement de parler de ces choses-là, de parler un petit peu de gastronomie, un petit peu d'histoire aussi. Et puis donc toujours le côté sonorisé, mais là qui est vraiment vu comme un film d'animation. Donc on va avoir tous les bruitages, on va entendre notre petit canard héros, le petit canard chevalier un peu loufoque vivre son aventure. Et pour corroborer ou aller encore un peu plus loin, on a rajouté en plus un peu de réalité augmentée. Donc ça permet en fait à travers une application de découvrir dans le livre, sur la base du livre, des gravures d'époque ou des tapisseries qui ont inspiré justement la réalisation du livre.
Les festivals, c'est aussi beaucoup d'auteurs étrangers, beaucoup. Alors je suis arrivée, j'ai quand même trouvé plein d'auteurs italiens et plein d'autrices italiennes.
Évidemment.
Oui, sans difficulté. Aux éditions ici même, on a rencontré Lorena Canottieri, autrice de la bande dessinée Sauf imprévu. Écoutez.
Invece Salvo Imprevisti è appena uscito. È uscito l'altro ieri.
Alors là, c'est le deuxième album, c'est Sauf imprévu, qui est paru hier. Et donc qui parle de quatre personnages. Trois sont des humains et le quatrième est une bot, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui s'occupe de la gestion de la maison.
E tutti i personaggi fanno un percorso di ricerca.
Et donc là, les trois personnages humains, en tout cas, sont des chercheurs. Le premier, c'est un astrophysicien qui s'intéresse aux sous-venus de l'espace, un peu étrange. Et puis la deuxième, c'est une écrivaine, voilà, et qui existe vraiment, qui est Jane Mansfield. Et enfin, la troisième est une hacker.
La loro ricerca personale.
Chacun de ces chercheurs a un langage spécifique qui est lié à leur activité. Et donc qui tend un peu à couper la communication effective avec le reste du monde, bien que le but soit universel. Et donc il se renferme un petit peu dans cette une forme de solitude qui est liée à ce langage qui leur est propre.
Soprattutto dalle persone vicine, dalla famiglia, dagli affetti. Invece l'intelligenza artificiale fa una ricerca inversa.
D'accord, il y a donc à la différence du quatrième personnage qui lui donc est une intelligence artificielle sans corps et qui justement va se mettre à rechercher ce concept de corps et qui tombe aussi sur le concept d'imprévu qui lui semble essentiel.
Toujours à l'étranger mais francophone, nous avons rencontré l'autrice québécoise Sophie Bédard qui vient de publier Les Petits Garçons aux éditions Pou Pou.
Ah, Camilla, on sait que t'aimes bien parce que t'aimes bien l'accent québécois.
Mais, oui, oui. Non, mais surtout, j'adore cette maison d'édition.
Voilà, on...
Et la bande dessinée, je viens de terminer la bande dessinée de Sophie Bédard. C'est assez passionnant. Je vous conseille absolument de la lire. C'est vraiment très, très intéressant par rapport... ça raconte cette histoire des colocations. Je trouve ça assez passionnant.
Alors, Les Petits Garçons, c'est le récit de trois colocataires, donc, dont une qui était disparue depuis un an. Elle s'est enfuie avec l'argent de l'appartement et elle revient du jour au lendemain en voulant réparer les pots cassés, en se disant comme « Oh, on va redevenir amis comme avant ». Puis c'est un peu le récit d'une amitié qui bat un peu de l'aile, le genre d'amitié qu'on a, qu'on traîne pendant l'adolescence, puis qu'au début de l'âge adulte, quand on commence à devenir vraiment soi-même, on se rend compte que « Ah, peut-être que ça marche pas tant que ça ». Et c'est une comédie, donc ça traite de choses un peu plus graves, mais ça reste quelque chose que je voulais, que ce soit drôle, avec plein de rebondissements, donc voilà. Ben, en fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est un projet de fiction. C'était pas, justement, j'avais pas vécu avec des amis jusque-là, mais c'est des choses qui sont devenues réelles au cours de l'écriture. Donc, tu sais, je me base sur la vie réelle, la vie de jeune femme du début vingtaine. Donc, normalement, il y a des trucs qui arrivent. Qui sont arrivés dans ma vie. Quand j'ai commencé ce livre-là, je vivais avec mon copain, on s'est séparés, et là, maintenant, je vis avec deux amis. Mais c'était vraiment pas ça le point de départ, mais je trouve ça très drôle à quel point, comme c'est ça, je parle de trucs très quotidiens et il y a des choses qui se sont recroisées dans ma vie après l'écriture de ce livre-là. Je suis partie j'ai essayé de bâtir mes personnages j'aime beaucoup développer des personnages en pensant beaucoup à leur personnalité, puis ils ont vraiment toutes leurs personnalités propres, puis des caractères très forts, moi j'aime ça faire des histoires d'amitié avec des gens qui s'aiment très très fort, puis là-dedans qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est que c'est des gens qui s'aiment très fort mais que tu vois qu'ils sont plus bien les uns pour les autres, qui ont du mal à s'entraider ou qui voient trop le défaut des gens. Comme des fois, quand t'es ami avec quelqu'un depuis trop longtemps, leurs défauts te reviennent plus, puis t'es plus capable de gérer avec ça, ou il y a des choses qui s'entrechoquent. Les relations humaines, c'est souvent très complexe, et moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est ça, j'avais envie de faire une bande dessinée là-dessus, sur c'est ça, des gens qui s'aiment très fort, mais qui sont plus capables d'être là l'une pour les autres.
La Belgique était évidemment présente et nous avons pu parler avec Noémie Marcilli pour parler des Mémettes, une BD superbe que nous avons chroniquée dans l'émission du 29 décembre.
Eh bien, donc c'est un projet qui a été scénarisé par Isabella Thiely, que je connaissais de vue en fait, mais elle connaissait mon boulot et donc elle m'a contactée avec ce projet qui, à la base, en fait, était un scénario pour un court-métrage, pour un film, en fait, parce qu'elle est réalisatrice. Mais le projet n'avait pas abouti, et donc l'histoire lui tenait vraiment à cœur, et donc voilà, elle ne voulait pas laisser tomber. Donc elle s'est imaginée que ça pourrait fonctionner en BD, donc elle m'a contactée, moi, parce que voilà, elle suivait un peu mon travail de loin. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Şu benim divane gönlüm Yine elden ele 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 düştüm
Premier morceau de la soirée, Divan, des Casbah. Sorti de la partie in, nous avons rejoint hors de la ville le festival Spin-Off où on trouve des très jeunes auteurs qui montent leurs projets, leur maison des micro-auditions par exemple. Toi, Michel, tu as rencontré les micro-auditions Chahou.
Chahou, ouais, Chahou, ça veut dire bordel. Et oui, donc c'est vraiment des tout jeunes. Hein. Je pense qu'ils ont moins, ils ont quelque chose comme 25 ans. Et ben écoutez,
des tout jeunes mais très passionnés.
Ah bah oui, là on a affaire à des gens, ils sont vraiment sur le tout démarrage de leur carrière si elle fonctionne. On sait que c'est pas facile dans ce milieu de la BD, mais ils sont pleins d'énergie, ils ont plein d'idées, donc on écoute.
Donc moi je m'appelle Sacha Wiesel.
Voilà. Et toi?
Arthur Junier.
Voilà. Vous êtes tous les deux donc à l'origine ou vous avez alors comment ça s'est développé là cette histoire de Chahou?
Alors, je vais expliquer du coup. Donc, j'étais en deuxième année aux Beaux-Arts à Épinal. Et j'ai découvert un petit peu au fur et à mesure de la première année, puis de la deuxième année, un peu le monde du fanzina. J'ai fait des salons de micro-édition et je me suis dit que moi aussi je voulais faire pareil. Et du coup, je me suis dit, comment je fais? Et non, j'ai pas copié. Enfin, j'ai un peu copié quand même, forcément. Mais on va dire que voilà, j'ai regardé un peu comment les autres avaient fait, comment ils s'étaient débrouillés. J'ai vu que. Par exemple, il y avait des potes qui avaient fait des financements participatifs, des choses comme ça. Et donc au début, j'étais tout seul au début. Je me suis dit, vas-y, je me lance, je vais essayer. Donc j'ai ramené 11 de mes potes, dont Arthur, à illustrer. Je leur avais donné le thème et je leur avais dit, voilà, on va faire ça en deux couleurs. On avait discuté de tout ça ensemble. Et je leur avais dit, voilà, vous faites des dessins. Et puis moi, à leur côté, je fais toute la mise en page, je m'occupe de tout. On va imprimer les couvertures à l'école. Et puis, je vais récolter des sous pour imprimer ça à Paris chez un imprimeur. Donc après, j'ai rencontré Studio Fidèle comme ça aussi, avec qui on bosse depuis un moment et qui a imprimé la deuxième revue, puis certains prints qu'on a fait. Et donc, la première revue, c'est fini. Donc, ça a été un travail assez intense, mais qui a été super. Moi, j'ai beaucoup appris et c'était génial. Et Arthur m'avait filé un méga coup de main. Il m'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et j'aurais pas pu y arriver aussi bien sans. Et du coup, après, je lui ai proposé, si ça lui disait, de continuer cette aventure-là avec moi et d'essayer de monter ça à deux. lui il a dit oui. Puis cette grande histoire d'amour a commencé comme ça. Et après, voilà, de fil en aiguille, bah, on s'est dit que l'année prochaine était arrivée, au final, et que on a dit bon, bah, on va relancer une revue peut-être et on va faire une deuxième revue.
Et là, c'est plus tard.
Exactement.
Alors, racontez deux secondes plus tard parce que j'ai un peu feuilleté tout à l'heure.
Plus tard, du coup, le thème, c'est un peu imaginer, comment dire, un monde parallèle à la Terre, une espèce d'échappatoire où on a une espèce d'échappatoire à l'humanité et où on aurait envoyé des illustrateurs pour décrire ce monde au travers de leurs dessins. Voilà.
Parce qu'en fait, la Terre est pue. Et tout le monde est quasiment mort. Ouais. Et du coup, en fait, il reste plus de scientifiques viables et intelligents pour aller vraiment enquêter sur des choses sérieuses qui peuvent permettre la survie de l'humanité. Du coup, on a envoyé des dessinateurs parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose d'autre. Et c'est pour ça que c'est 18 illustrateurs du coup qui partent sur une planète et qui racontent.
À trois pages à chaque fois. Et alors, il y a une parce que esthétiquement, c'est tout à fait remarquable. Enfin, on distingue tout de suite qu'il y a un type d'impression particulier puisque les couleurs.
Du coup, c'est entièrement imprimé en réseau-graphie.
Sauf la couverture
qui est imprimée en sérigraphie. Nous, ce qui nous plaît énormément dans cette technique, c'est que ça permet d'avoir des couleurs qui pètent vraiment visuellement, qui sont très fortes. Et d'avoir
une texture aussi.
D'avoir une vraie texture et d'avoir une texture qui joue avec le papier en plus. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver autrement. Et on. Pour cette revue, en tout cas, enfin pour ces revues, on n'avait pas envie d'avoir quelque chose de lisse. Ou, voilà, on avait envie d'avoir un bel objet qu'on a envie de regarder. Parce que voilà, trois pages, c'est court. On n'a pas forcément une histoire. Les gens peuvent juste faire des illustrations. Il y en a qui font de la BD. Mais du coup, il y a au moins quelque chose de beau à regarder, qu'on ait envie de regarder souvent, d'y revenir. Voilà, et que les personnes prennent vraiment plaisir. À feuilleter.
Alors j'ai une question parce que ça semble assez clair quand on voit le type d'impression que ça produit, l'impact visuel, c'est qu'en gros c'est quand même pas la même chose. Enfin, vous pouvez pas imprimer n'importe quoi. Ça, si quelqu'un fait par exemple du dessin, vous pouvez me dire ce qu'il fait de la peinture, c'est normal. Enfin, des aquarelles, c'est quoi, ça va pas marcher, ça c'est évident. Enfin, bref, j'étais tout à l'heure avant de machin, ça marcherait pas.
En horizon ?
Ouais.
Reconstruire. Reconstruire les couleurs, les couleurs d'origine.
Ça s'est fait pour des participations notamment. Enfin, d'habitude, ça se travaille comme la sérigraphie ou la litho. Je ne les connais pas en litho, je ne peux pas dire ça. D'accord. Mais en sérigraphie, par exemple, les gens ils travaillent directement par couche pour concevoir leur image. Après, on peut les séparer aussi. Ouais. On peut les séparer. Jimmy, sa participation à lui, il m'a envoyé des originaux qui n'étaient pas séparés, mais il a utilisé les couleurs que je lui avais dit pour faire son image.
On l'a séparé et reconstruire, etc. Mais ça se fait. On a le rendu encore différent qu'il a utilisé et qui est super beau. Même ça rajoute un côté avec la texture en plus. Il y a un côté très fantomatique, vraiment magnifique.
Ok, juste une dernière question. Je vais vous laisser. C'est quoi la suite ? C'est forcément troisième revue ou pas ? Là, après, je sais qu'il y a un départ.
Il y a des projets en route qui sont déjà un peu commencés et qu'il faut concrétiser. Troisième revue bientôt, j'imagine, parce qu'on avait dit qu'on en faisait une par an, donc dans l'idée c'est ça. Et bientôt, si tout se passe bien, on sera complètement indépendant et on pourra essayer d'imprimer nous-mêmes avec nos propres machines, nos propres livres. Et du coup, on sera intégralement tout le maillon de la chaîne.
Troisième membre qui vient de rejoindre notre équipe là,
effectivement.
Au spin-off et on va essayer de dispatcher un petit peu le travail et essayer de faire plus de petites BD aussi. Faire du récit court
en genre strip.
Voilà, non mais
genre strip, genre BD
de 20 pages très simple
pour
tout ce qui nous plaît en fait, tout simplement. En fait, la seule ligne éditoriale, c'est juste on aime bien et c'est chouette. Et du coup, on propose à la personne, on dit hey, c'est trop cool ce que tu fais, ça te dit de faire un bouquin? Et la personne a dit non, ou alors elle dit oui, et c'est dit oui, on fait bon, bah nickel, c'est réglé. On va se faire ça tous les deux et ça va être bien, ou tous les trois, ça va être bien, ou tous les quatre, ça va être bien. Et c'est tout. Dans l'idée. Même devenir une petite maison de micro-édition où les gens ils viennent te voir et ils font ouais, coucou, j'ai ce projet, ça vous dit de l'imprimer? Et nous on fait bah ouais, grave, c'est beau, tu vois, donc c'est cool. C'est ça, ce serait un avenir super
quelque
cool.
Chose d'unique, ouais, fond à fond.
Et puis toi, Camina?
J'ai rencontré Mathilde,
voilà.
Du collectif Comtesse, qui présentait son Ariane Médée Circé. Et moi, qui j'adore la mythologie grecque, évidemment, j'étais tout de suite frappée par ces titres. Et donc, je demandais à Mathilde de nous raconter, de nous parler un peu de son travail.
Oui, alors, du coup, en fait, c'est un gros travail parce que c'est mon travail de mémoire que j'ai fait en cinquième année à l'école. Je suis aux Beaux-Arts à Lézy, d'Angoulême. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup au féminisme, à la question de l'amour et à la question de la mythologie grecque. Et du coup, là, c'est un peu un genre de mix de toutes les pensées que j'ai pu avoir ces dernières années. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur mon enfance, quels étaient les modèles de femmes que j'avais, les modèles d'amour que j'avais quand j'étais enfant. Et du coup, ensuite, ça se déroule avec trois réécritures de trois personnages de la mythologie grecque. Donc, personnages féminins, donc Ariane, Médée et Circé. Est-ce que tu veux que je raconte un peu les histoires ? Oui. Donc pour Ariane, donc l'histoire d'Ariane, rapidement, donc la mythologie d'Ariane, c'est la fille du roi de Crète qui, dans un labyrinthe, habite le Minotaure. Thésée, qui est prince d'Athènes, vient pour tuer le Minotaure qui mange toutes les années de jeunes Athéniens. Et Ariane le voit, tombe amoureuse de lui, et comme elle ne veut pas qu'il meure, elle lui propose de l'aider, en échange de quoi elle devra l'amener loin de Crète et l'épouser. Donc elle lui donne une pelote, après que Thésée ait accepté, une pelote de laine, dont il enroule... Donc Ariane teint l'extrémité du fil de laine à la sortie du labyrinthe, et Thésée déroule la pelote de laine tout le long du labyrinthe, et après avoir tué le Minotaure, il n'a plus qu'à rembobiner la pelote de laine pour retrouver la sortie. Et ensuite, il amène Ariane avec lui. Ils font escale à la nuit sur l'île de Naxos. Ils font la fête, car tous les Athéniens sont contents d'être en vie. Et tout le monde fait la fête, et quand Ariane se réveille le matin, Thésée est parti. Elle l'a complètement abandonné sur l'île. Et donc du coup, moi, je pars de ça pour écrire l'histoire d'Ariane, qui est une jeune fille qui vit... c'est un peu atemporel, j'ai pas précisé ni de contexte, de temps, ni d'espace. Mais c'est une jeune fille qui vit dans une famille, qui l'aime beaucoup. On imagine que c'est la campagne. Et c'est un endroit où elle a toujours été bien, mais elle a comme des rêves de liberté. Et tout à coup, un jeune homme arrive, qui lui vient de la ville, qui attire énormément l'attention sur lui. Et elle tombe amoureuse de lui. Ils fuguent ensemble, elle le rejoint à la ville. Et là, progressivement, son monde va se réduire exclusivement à ce jeune homme. Et elle va se perdre, elle va perdre son identité de plus en plus, dans des rapports qui vont se dégrader, qui vont être de plus en plus malsains. Mais elle va culpabiliser, prendre énormément sur elle et se dire que si tout va mal, c'est forcément de sa faute, qu'elle ne fait pas assez d'efforts, etc. Et puis un jour, il s'en va. Elle le laisse et il l'abandonne. Elle n'a plus de nouvelles de lui et du jour au lendemain, il la ghost. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement extrêmement courant comme phénomène. Et c'est un phénomène qui est totalement destructeur parce qu'il empêche la personne qui vient d'être quittée de faire son deuil. Parce qu'elle n'a aucune explication, elle n'a rien ce à quoi se raccrocher. Il n'y a pas d'étape de deuil possible. Et en fait, voilà, c'est une espèce de longue... un début de pourrissement intérieur, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'elle va vouloir survivre. Et ce phénomène-là, c'est la colère, qui pour moi est un sentiment hyper important dans le fait de, voilà, d'être juste énervé de ce qui nous arrive et qui nous permet de survivre. Et à partir de là, du coup, il y a une partie qui fait référence à l'autre, à la fin de la mythologie d'Ariane, qui est qu'en fait, sur l'île de Naxos, tandis qu'elle pleure, le cortège de Dionysos passe. Et Dionysos est charmé par Ariane, qui est une princesse pas ordinaire, parce qu'en soi, elle a limite forcé Thésée à lui promettre de l'épouser, elle organisait elle-même sa propre fuite. Et il est charmé par cette beauté, cette féminité pas tout à fait canonique, pas tout à fait rangée, et lui propose d'être sa femme. Ariane accepte et repart avec lui, avec tout son cortège. Et pour moi, Dionysos, c'est vraiment la représentation de ce qui est à côté, ce qui est autre. Enfin, symboliquement, c'est hyper riche. C'est ce qui n'est pas accepté, c'est le seul dieu de l'Olympe, enfin le seul dieu grec qui n'est jamais sur l'Olympe, il est toujours parmi les dieux, c'est la fête, c'est ce qui n'est ni utile, ni pratique, c'est ce qui n'est pas sociétal, c'est ce qui est une forme de sacré. Et Ariane se retrouve dans ce sacré, elle-même, elle se libère de tout ce qui était sociétal, de tout ce qui l'a conduit à être avilie. Et voilà, elle se libère. Donc dans le livre, ça se traduit par des écritures très grosses, des phrases très chocs, très violentes et des images en pleine page que dans la première version du livre, j'avais sérigraphiées pour pouvoir avoir des couleurs fluorescentes et très vives.
Bueno.
Deuxième morceau de la soirée, Finte de Casbah.
Nous sommes aussi retournés au centre-ville, mais pas pour faire le reste du festival officiel. Nous sommes aussi allés, comme on l'a dit en introduction de l'émission, au off of off. Donc si vous voulez, le off du off ou le off de l'officiel. Donc c'est pas le spin-off, c'est différent. Et ça se déroule dans une petite maison.
Toute mignonne.
Ouais, ouais, avec une petite cour intérieure, il y a un petit bar, c'est vraiment sympa.
Très sympa.
Et donc, au off of off, on trouve des auteurs plutôt confirmés en réalité. Là, c'est pas la même ambiance du spin-off, où on a des très jeunes, etc. Là, on a des gens qu'on connaît déjà bien, des pros, mais qui n'aiment pas se prendre au sérieux clairement, et qui font dans l'humour en général un peu grinçant. Bon, vous y retrouvez par exemple les collections BDQ, là, les Frankie et Nicole, en gros, bref, les requins marteau, pardon, super l'auto-édition, l'Esprit Ciné, Olivier Besseron, etc. Il y a même une remise de prix, alors évidemment, pareil, qui est dans le même esprit, un peu décalé, donc le prix Charlie Schlingo, le prix Couille au cul ou le prix Aux baloches pendantes pour le courage artistique. Bon, vous avez compris où on est. Alors, on ne vous donnera pas la liste des vainqueurs des prix, parce que, idem, ce n'est pas ça qui nous intéresse tant que ça.
On s'en fout.
Voilà.
Par contre, on avait un rancard. Oui, un rancard avec Olivier Texier. Mais lesquels, vous allez comprendre.
Donc, on est avec un Olivier Texier. Je ne sais pas si c'est le bon, parce que j'ai vu qu'il y avait un directeur de l'Agence universelle de proximité du Crédit Agricole qui s'appelle Olivier Texier à Angoulême. Donc, qu'est-ce que c'est ?
Alors, bon, en fait, notre agence développe des prêts à taux zéro, personnalisés, pour tous les jeunes ménages qui veulent s'installer sur Angoulême. Et,
d'accord.
Voilà, il y a vraiment des belles opportunités à faire en ce moment au niveau immobilier. Hein. Profitez-en, venez nous voir, on vous fera un bon crédit.
Voilà, usurpation d'identité, ça commence bien.
Totalement.
Voilà. nous, on savait là que les dernières nouvelles du côté d'Olivier Texier, le dessinateur, hein, l'autre... c'était Kakaraté, Le Retour, Le Royaume du Vide. Bon, mais là, par contre, j'ai l'impression que c'est pas présenté en stand, là.
Alors, les Kakaraté, en fait, là, on est au stand off. Donc, il y a les requins marteaux, fluides glaciales qui sont présents ici.
Ouais.
Et en fait, les Kakaraté, c'est les éditions Même Pas Mal. Et Le Royaume du Vide, c'est les éditions Cornelius. Donc là, c'est la bulle New York, Nouveau Monde,
ouais,
où j'étais présent ce matin pour dédicacer.
Ah oui, d'accord.
Donc là, c'est un espace un petit peu particulier avec les requins marteaux, qui sont un éditeur toujours un petit peu particulier, qui cultive sa différence.
Ouais.
Donc, on est au off.
Mais ouais, alors ça, il y a le off du off, le off, il y a... Tu passes devant partout à peu près ou...
Bah en fait, non, là, je suis un petit peu en passage express à Angoulême, donc je ne vais pas pouvoir passer. Pour moi, qui est le meilleur endroit, c'est le off du off, qui est le vrai off, là où il y a les franzines, qui sont pour moi quelque chose qui est toujours très très important. Et là, en fait, je fais un passage éclair de 24 heures à Angoulême,
ouais,
et je vais louper toutes les belles expositions, donc, notamment celle de Nicole Clavelou, qui doit être splendide, et je vais aussi louper l'espace franzine, où j'aurai beaucoup de choses à voir, beaucoup de franzines à acheter, ouais, mais je ne vais pas pouvoir y aller, donc c'est un de mes regrets,
ouais,
sur ce festival Angoulême 2020, de ne pas pouvoir aller au off.
Et puis aussi, quand même, comme tous les dessinateurs, tu te dis peut-être que je suis dans la petite enveloppe, un peu comme au César, et le Grand Prix d'Angoulême est décerné à...
J'attends un petit peu, je pense que d'ici peut-être une trentaine d'années, j'aurai mes chances, mais pour l'instant, peut-être que quand je serai dans le patrimoine, mais là, pour l'instant, non, et puis... Bon, après, les honneurs, c'est pas forcément ce qui fait sauter au plafond un auteur de bande dessinée. À Angoulême, ce qu'on aime bien, c'est voir les copains, passer des bons moments, rencontrer son public,
ouais,
avoir des compliments, et puis après, ça aide à tenir tout le reste de l'année pour ce travail solitaire qu'est la vie d'auteur de BD.
Alors, tu es toujours salarié à la mairie là, de...
Oui, à côté de Nantes, la ville de Bouguenay.
Bouguenay.
Toujours graphiste... à temps plein, et c'est vrai que c'est un choix que j'ai fait maintenant il y a presque 20 ans, que je regrette pas du tout, de me dire que j'allais jamais réussir à gagner ma vie, parce que la vie, on n'a pas besoin de la gagner, mais gagner mon argent avec le dessin et la BD. Je me suis rendu compte très très vite que j'y arriverais pas, que c'était pas du tout mon ambition, et puis j'ai trouvé un travail salarié sur le où je suis là depuis presque deux décennies. Et puis je fais la bande dessinée à côté sur mon temps libre. Et moi, je trouve que c'est un équilibre qui me convient tout à fait. Après, la contrainte, c'est qu'il faut apprendre à dessiner vite si on veut faire des albums tout en étant salarié, avoir une vie de famille, une vie, on va dire, normale. Mais c'est la seule petite contrainte. Mais à partir du moment où on peut dessiner vite pour produire des albums et s'amuser avec le dessin, moi, c'est un équilibre qui me convient tout à fait.
Donc ça va continuer.
Ah, normalement.
Camilla, tu as une question ?
Oui, oui. Olivier, je voulais savoir, pour ça, est-ce que tu te donnes une discipline ? Donc, tous les jours, dans ton rythme quotidien, est-ce qu'il y a un moment où tu vas dessiner ? Si je ne me trompe pas, tu dessines dans les bus ?
Oui. Alors ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le truc qui est essentiel. Parce que je pense qu'on a vite fait de procrastiner, de se dire, j'ai des très bonnes idées d'albums, mais je les ferai quand j'aurai le temps, quand je serai. Puis, au final, le temps passe et puis on s'y met jamais vraiment. Donc moi, l'idée, c'est ça, c'est justement cette idée de travailler de manière très régulière, très disciplinée, un peu rigide, un peu psycho-rigide peut-être. Donc j'ai un rythme où le matin, je me lève une heure en avance. Donc je dessine de 7h à 8h quand tout le monde dort encore. Et puis après, donc j'ai une heure de bus pour aller sur mon lieu de travail, donc je dessine encore une heure dans le bus. Le midi, je mange un peu vite fait sur le pouce et puis ça me laisse une petite demi-heure pour dessiner.
En fait, t'as deux travails.
Et puis voilà, puis le soir, rebelote, quand je rentre chez moi en bus, il y a encore une heure. Et puis au final, quand on cumule tous ces petits moments, ça fait 3-4 heures de travail quotidien. Et puis quand on a un dessin comme moi qui est assez lâché, qui est pas trop travaillé, ça permet quand même de faire pas mal de choses sur 4 heures par jour. C'est assez, ça peut être suffisant. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Olivier, et puis bon festival.
Merci beaucoup. Voilà. Merci.
Et moi,
à
j'ai
vous.
D'autres questions.
Ah.
Alors oui, je voudrais savoir Olivier, comment t'es arrivé, comment t'as commencé la bande dessinée ? T'as commencé quand t'étais tout petit ?
Alors tout petit, je me rappelle mes toutes premières bandes dessinées, en fait, j'étais tellement en môme que j'avais pas encore compris qu'on pouvait reproduire les dessins, ou je savais pas comment m'y prendre, donc je dessinais les BD plusieurs fois. C'est-à-dire que je devais être en CM1, CM2 et je dessinais sur un cahier une bande dessinée, puis je la recopiais après pour la distribuer aux copains. Donc ça, c'est mes plus vieux souvenirs. Et puis après, quand j'étais plus lycéen, j'ai commencé à faire des photocopies, puis à le diffuser autour de moi, mes amis. Et comme ça, je suis auto-édité pendant très longtemps, parce que j'ai vraiment eu un grand plaisir à manipuler les agrafes, les photocopies, le massicot, à faire moi-même mes objets. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très, très reposant, et j'aime beaucoup ce côté un peu façonnage. Et donc maintenant, j'en fais un petit peu moins parce que je travaille avec des éditeurs. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, de faire moi-même mes livres. Et je n'exclus pas de m'y remettre un jour. Mais,
à la photocopie.
Ou maintenant, on peut faire de la RISO, de la sérigraphie, ou même de l'offset. On peut aussi imprimer et puis relier soi-même ses livres ensuite.
Des choses quand même un peu plus sophistiquées, en fait.
Oui. On peut. Puis il y a aussi plein de méthodes d'impression qui sont un peu oubliées et qui peuvent être tout à fait abordables, techniquement assez simples. Et puis, on peut faire des choses, même en gravure, avec de la gravure sur plexiglas. On peut faire des livres de bande dessinée, des petits tirages, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime. Donc la BD, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très ancien, qui remonte à longtemps. Ouais.
Et pour revenir sur l'histoire de ton œuvre, d'Olivier Texier, comment t'es arrivé à ton première œuvre éditée par un éditeur ?
En fait, la toute première, je pense que ça doit être... une fois que je suis sorti des fanzines, la toute première, c'est quand j'ai commencé à publier les strips Le Bar dans Psychopathe. Pour moi, Psychopathe, c'était la revue que j'achetais quand j'étais lycéen à l'été, et ça me faisait rêver de voir... Il y avait des BD de Crumb, il y avait aussi tous les gens qui ont fondé après l'association, que ce soit Kilofer, Lewis Trondheim, mais au tout début de leur carrière. Et je trouvais que c'était une bande dessinée qui était assez underground, assez... J'aime bien quand c'est contre-culture, quand c'est un peu dérangeant, un peu grinçant. Et je sais pas, j'adorais le Psychopathe. Donc j'ai envoyé mes strips à Carali pendant des années. Et puis il a fini par les passer au bout d'un moment. Donc j'étais vraiment là, j'étais fier comme tout. Et après, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelle Sylvain Gérant, qui était éditeur à Bordeaux, qui a proposé, qui était fan de mes strips Le Bar, et qu'on a fait un recueil pour ses éditions, les éditions Humeur à l'époque. Et donc ça, c'était mon premier vrai livre en offset. Donc c'est un livre maintenant que je continue à avoir quelques exemplaires, et je suis toujours ravi de le donner ou de le revoir passer. Mais le dessin, il a vraiment beaucoup changé. À l'époque, je passais des heures sur un strip. Je faisais des crayonnés hyper précis. Je faisais un crayonné dans un sens. Je le décalquais de l'autre côté par le table lumineuse par transparence pour enlever les erreurs de des erreurs. Après je l'ancrais par transparence, enfin j'y passais un temps fou pour raconter un truc en trois cases que je dessine maintenant
c'est
en
vrai,
un quart d'heure quoi.
C'est vrai qu'il y a une certaine dégradation du
dessin, il était très rigide, mais c'était une étape essentielle, mais par contre c'était déjà le rythme de strip qui me colle un peu à la peau depuis, dans lequel je suis très à l'aise. Ouais.
Et j'ai une question par rapport à tes personnages. Tu vois, il y a toujours ces petits monstres, tout ça. Mmh. Est-ce que tu les rêves aussi ? Dans tes rêves, ils sont présents ?
J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est vrai que... Bon, après, je sais pas. Bon, il paraît qu'on oublie la plupart de ses rêves. Mais par contre, c'est vrai que moi, il y a quand même des rêves que je trouve très marquants. J'adore quand on est pris, même dans des cauchemars, quand on est pris dans une ambiance comme ça et qu'on vit intensément le moment dont on rêve. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Et... Je pense qu'on cherche tous à retranscrire cette intensité dans les bandes dessinées, ce qui n'est pas toujours très facile. Mais c'est vrai que les rêves, c'est une expérience narrative qui est inouïe, quoi. Donc j'aimerais bien pouvoir dessiner ce que je rêve ou l'inverse. Ouais.
Et tout à l'heure, Michel Carton, tu as répondu à des questions sur le Festival d'Angoulême, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes pendant le Festival d'Angoulême, en tout cas une tempête un peu du festival ?
Ou
peut-être là, oui, quelque chose.
Bah après, bah, c'est vrai qu'il y a, il y a la foule, il y a, bon, il y a rien que je déteste fondamentalement. En fait, c'est le coup d'y aller, c'est le coup de venir. Quand 2-3 jours avant, on se dit, oh, je vais encore devoir aller à Angoulême. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ? Ça va être blindé, il va faire chaud dans les bus, ça va être. Puis en fait, une fois qu'on a posé le pied à la gare et qu'on commence à rencontrer les gens qu'on connaît, que finalement c'est un gigantesque endroit où on rencontre la profession et puis des amis. Il y a des lecteurs aussi qu'on reconnaît d'un festival à un autre. Et puis voilà, et au bout d'un moment, on se dit, bah, j'ai bien fait de venir. On rentre un peu fatigué, mais c'est bien. Puis j'adore rencontrer les gens dont j'admire le travail, mais que je n'ai pas forcément l'occasion de rencontrer. Donc là, j'ai rencontré Antoine Cossé, qui fait un BDQ Roc à Marteau. Bastien Vivette, je n'avais jamais parlé avec lui. Ouais. Hier soir, j'ai mangé, j'avais la chance d'être assis à côté de Charles Burns au restaurant. Donc, ouais. C'est des moments qui sont très sympas. Après, on ne se dit pas forcément des choses très philosophiques, mais on se dit, bah, voilà, c'est aussi un métier, on fait partie du même métier. Et c'est...
Des collègues.
Voilà, des collègues. Ouais. Et ça donne chaud au cœur, sans compter, bah, évidemment, tous les lecteurs qui viennent, ouais. et qui sont très contents de venir vous rencontrer. Et là, c'est vraiment quelque chose qui donne aussi tout son sens au travail qu'on fait. On dessine pour soi, mais c'est vrai qu'on dessine aussi pour des lecteurs. Donc, à un moment donné, faut les rencontrer. Ouais.
Et est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur ton prochain sur un projet sur lequel tu es en train de travailler ?
Eh bien, en fait, là, depuis, ça fait longtemps que j'avais pas ce moment-là où finalement, là, j'ai pas trop de projets. Je suis dans un moment où je pense que j'ai besoin de me poser un petit peu. J'ai fait beaucoup de strips là, ces dernières années. Là, j'ai donc un recueil qui est sorti chez Cornelius. J'en ai un qui sort en Roquin Marteau en mars-avril. Mars-avril, ça s'appelle Demain est un autre jour de merde. Roquin Marteau. Donc, c'est des strips qui sont parus dans Fruit Glacial il y a 2 ans.
Ouais.
Et en fait, je me rends compte que voilà, c'est une mécanique que j'ai, sur laquelle j'ai peut-être un petit peu tiré. Il faut que je fasse une pause sur les strips et pour l'instant, j'ai pas de récit, j'ai pas d'idée très déterminée. Je vais me laisser un petit peu de temps pour que l'envie revienne. Voilà, je suis pas une machine et surtout, j'ai pas besoin de travailler pour en vivre. Donc là, je pense que j'ai besoin de faire une petite pause de quelques mois et puis laisser venir les idées, les envies. Donc là, j'ai pas de projet précis. Des idées, mais tellement vagues que je préfère pas en parler. Ça reste, je laisse mûrir dans un coin. Et puis après, j'espère que ça va être des belles fleurs qui vont éclore grâce à des amis éditeurs. Mais pour l'instant, non, j'ai rien de particulier.
Bon. Merci Olivier.
Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.
Bon festival.
Merci.
Enfin, on n'est pas peu fiers de notre découverte.
Ah oui, ça c'est pas mal.
On s'est aperçu qu'il y avait un site des BD chrétiennes. On s'y attendait pas.
Non, on ne s'attendait pas parce que bah, vous allez à Angoulême, vous vous dites pas, tiens, on va aller voir aussi, il y a tous ces aspects-là, voyez, pourquoi pas aussi des BD sur n'importe quel autre thème, je sais pas, par exemple la BD scientifique, quoi, quoi que ça existe sûrement, bref. Et donc,
bien sûr que ça existe.
Évidemment, ce qui était marrant, c'est que évidemment, deviner le site de la BD chrétienne, bah, c'était une église, évidemment. Donc on y est allé faire un tour.
On a fait quelques interviews pour voir. On ne vous passera pas tout, on ne voudrait pas passer pour des évangélistes, mais il y avait effectivement une grande file d'attente.
au fond, près de l'Auteuil, il y avait une dédicace. J'en ai profité pour interviewer une personne, une visiteuse en attente. On écoute.
Bonjour.
Comment vous appelez ?
Isabelle.
Bonjour Isabelle. Pourquoi vous êtes en train de faire la queue ici ?
On est rentré hier par hasard et on a vu ce livre qui nous a bien plu. Voilà, et on vient se le faire dédicacer aujourd'hui.
D'accord. Donc vous êtes venu hier et vous revenez aujourd'hui pour la dédicace. Voilà. Et c'est une BD sur quoi ?
Sur Jésus, que la lumière soit.
D'accord. Et vous savez que vous étiez en connaissance du fait que ça existait une bande dessinée chrétienne ?
Oui, j'en connaissais quand même, et, mais on est rentré par hasard, voilà. Et celle-là, je ne la connaissais pas.
D'accord. Et c'est une bande dessinée que vous achetez pour vous ou pour quelqu'un ?
Pour la famille.
D'accord. Voilà. Donc vous pensez que la bande dessinée, c'est un moyen pour transmettre un message religieux ?
Oui. Oui, je crois, ouais. Ouais, oui. D'accord. C'est possible.
Et vous en avez plusieurs chez vous ?
Non. Si, j'en avais d'autres, oui. Quelques-unes, oui. Pas beaucoup, mais oui, si, j'en ai quelques-unes.
Et cet auteur, vous connaissez déjà
non,
cet auteur ?
Non, du tout. D'accord. Je découvre.
Ça marche.
Voilà.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir. Bonne journée.
Merci.
Ouais, alors voilà. Donc ensuite, on a quand même essayé de trouver des responsables ou des dessinateurs BD. Donc on a trouvé un dessinateur qui s'appelait Joli, mais on ne va pas pouvoir passer l'interview faute de temps. Mais par contre, la responsable, je me suis dit, tiens, ça serait quand même assez intéressant de voir ce qu'elle pense de la BD musulmane ou de la BD bouddhiste ou de la BD juive. Et je voulais un petit peu la lancer là-dessus. Mais vous allez entendre, la question, elle ne semblait pas vraiment audible à ses oreilles. Voilà. Alors bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes derrière un stand, je ne sais pas comment vous appelez.
Sylvie.
Sylvie. Donc en fait, vous êtes derrière un stand où il y a plein de BD.
Et nous avons choisi ces BD pendant toute l'année.
Ah d'accord.
Voilà. Nous sommes une équipe de bénévoles.
Ouais.
On se réunit régulièrement. On se propose des BD, on donne des résumés. Et après, on décide de les mettre en vente, de les choisir pour le festival.
Voilà. Mais alors donc, c'est là la particularité. On est dans une église. Et puis, donc ce sont des BD chrétiennes. Enfin, qui ne sont pas chrétiennes, elles sont... Alors,
il y a des BD chrétiennes, voilà. Il y a des histoires de saints, mais il y a aussi des BD profanes, mais elles ont dans l'ensemble tous un sens humaniste. On essaie de prendre des BD qui ont des valeurs morales.
Ah, qui ont des valeurs morales. Voilà. Est-ce que vous savez si ça existe dans les autres régions ? Peut-être moins en France, parce que c'est moins
présent.
Mais
nous, on est quand même BD international. Hein.
Oui.
Donc, le Festival d'Angoulême, il est exceptionnel.
Oui. C'est exceptionnel à ce point-là.
Voilà.
Oui, non, mais je veux dire, ma question, c'est est-ce que vous savez si, par exemple, les juifs, les bouddhistes, les musulmans
nous,
font ça ?
On est catholique ici, mais on est associé aussi avec l'église protestante d'Angoulême.
Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Mais là, oui, c'est chrétien au sens large.
C'est chrétien,
d'accord.
Voilà.
D'accord.
Il n'y a pas d'orthodoxe, donc on n'est pas associé aux orthodoxes, d'accord. Il y en aurait, on serait associé.
D'accord. Et non, bah, très bien, bah, on découvre un peu, donc c'est intéressant de voir. Et donc là, il y a des auteurs hein, qui sont là aussi.
Alors là, on a tout un tas d'auteurs. On vient d'avoir une conférence sur l'exposition là-bas, Jésus, que la lumière soit, par Brunor et le dessinateur, Jean-François Cellier. Et on a des dessinateurs, des scénaristes qui dédicacent leur BD toute la journée.
Voilà. Et malheureusement, notre temps vient de terminer. Par contre, on n'a pas pu passer toutes les interviews qu'on a fait à Angoulême, malheureusement. Mais vous trouverez des informations sur l'article sur notre site, sur le site de Radio Campus Paris, sur la page des strips sismiques, pour découvrir les bandes dessinées des auteurs que nous avons interviewés. Cette émission a été présentée par Michel Carton, préparée par Camilla Pizzichillo et réalisée par Pierre Pelsens.